Alors, on avait fait un petit peu de symbolique des chiffres, il me semble, avec la question du 5 et du 12, notamment. On avait rappelé le 5, les livres de la Torah. C'était au moment de la multiplication des pains et des poissons. Donc, le chiffre de la Torah et de l'élection. On avait parlé du 12 aussi, qui renvoyait également à un chiffre d'élection, puisque c'est les 12 tribus d'Israël. Et il y a également le chiffre 7 qui apparaît ici. On en avait quand même parlé parce que c'était 5 plus 2, ça faisait 7. Et donc je reviens dessus. On avait bien dit qu'il s'agissait du chiffre de la plénitude. Normalement, on ne peut rien ajouter à la plénitude puisque c'est la plénitude. Et ici, on voit bien au verset 4 que Jésus dit, même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi et que 7 fois de suite il revient à toi en te disant je me repens, tu lui pardonneras. Donc on voit bien que ce que Jésus veut dire par le 7, c'est que autant de fois qu'il viendra, tu lui pardonneras. On a la même logique dans le combien de quand Pierre dit et combien de fois devrais-je pardonner jusqu'à 7 fois, 70 fois. On a aussi cette logique de dire le but n'est pas de calculer ou de faire des mathématiques, mais le but c'est bien de dire qu'il faut pardonner autant de fois que le pardon est demandé. Alors sur ces 10 versets, qui sont les premiers versets donc du chapitre 17, il y a un attachement assez clair à la parabole précédente, celle qu'on vient d'étudier. Parce que si la parabole de Lazare prévenait du danger, on a dit, hein, qui était de laisser se creuser un fossé entre les disciples et les pauvres, c'est ici le thème du scandale qui apparaît. Et le plus grand des scandales, eh bien, Jésus le dit, c'est d'être une occasion de chute pour les plus petits. Et donc c'est exactement ce qui se passe dans la parabole de Lazare. C'est-à-dire que l'attitude de l'homme riche vis-à-vis de Lazare, c'est une attitude qui est scandaleuse. Et c'est l'attitude qui ne lui permet pas d'être accueilli dans le sein d'Abraham. Et donc, tout comme les disciples ont été invités à aller vers les pauvres, ils sont ici invités à ne pas créer de scandale. Surtout ne pas être source de scandale. Parce que ce qu'il faut avant tout, c'est rechercher le royaume. Et on voit ici que scandale et péché sont liés. Il est du devoir, hein, de tout chrétien de prévenir d'un possible scandale par deux moyens, qui sont les deux moyens évoqués ici. Premier moyen, c'est celui de la correction fraternelle. C'est quand Jésus dit si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Bon, bien sûr, il y a une manière de faire, hein, si on veut l'appliquer quand même. c'est quand même un conseil que Jésus donne pour éviter le scandale. Donc on peut faire de vifs reproches. On peut penser aussi à un autre passage qui n'est pas chez Luc, mais où Jésus dit, si ton frère vient à pécher, tu vas le voir. S'il ne t'écoute pas, tu vas avec un frère. S'il ne t'écoute pas avec la communauté, s'il ne t'écoute pas, considère-le comme perdu, quoi. Donc la correction fraternelle. Et la deuxième chose, pour éviter le scandale, ou peut-être la propagation du scandale, c'est le pardon. Un pardon qui est infini, comme la miséricorde de Dieu, et cette miséricorde, elle est exprimée, on l'a dit, par le Père dans la parabole du Fils perdu qui est retrouvé au chapitre 15. Malgré que le Fils tué le Père, on avait dit, hein, tué le Père non physiquement, mais en tout cas. Il fait comme si le père était mort, il lui demande son héritage, ensuite il part, il ne prend pas de nouvelles, il dilapide ensuite l'héritage. Et malgré tout ça, le père n'attend même pas que le fils ait terminé de lui demander pardon pour le pardonner et le restaurer dans sa dignité de fils. Donc c'est là qu'on voit la miséricorde de Dieu qui est une miséricorde infinie. Et donc là, on comprend mieux aussi pourquoi est-ce que les disciples vont s'exclamer au verset 5, augmente en nous la foi. Parce que s'il s'agit de pardonner autant de fois qu'on nous demande pardon et de pardonner à la manière du père de la parabole, ça nécessite un effort colossal. Donc ils s'exclament, augmente en nous la foi. Et Jésus, déjà, hein, par ses enseignements, par l'envoi mission des 12, et puis ensuite des 72, par la prière du Notre Père aussi. Il a progressivement fait prendre conscience à ses disciples de l'importance de la foi. Quand ils disent augmente en nous la foi, en fait, on voit que ils sont rentrés dans la dynamique que le Christ leur insuffle, quoi. La foi, elle est associée au don de soi, et donc c'est ce qui permet de marcher véritablement à la suite de Jésus. Il faut avoir la foi pour pouvoir entendre la parole de Jésus quand il dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Parce que sans la foi, c'est masochiste en fait. Donc il faut la foi pour dépasser l'âpreté de l'appel du Christ. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a aussi une forme d'âpreté qui est celle du pardon. Et pour pouvoir réussir, eh bien, il demande la foi. Donc on voit que la foi, elle prend racine dans le cœur des disciples. Ils ont eux-mêmes été envoyés donc, sur les routes de Samarie pour annoncer le règne de Dieu qui vient, donc dans cette nation qui leur était hostile. Ils sont partis sans aucun bien. Vous vous rappelez, hein, ni bourse, ni bâton, ni tenue de rechange, etc. Ils ont entendu Jésus parler aussi de la providence. Vous savez, cette providence qui assure aux corbeaux leur nourriture, qui assure aux lys des champs leur parure extraordinaire. Ils ont aussi entendu, à l'instant, ce qu'on a entendu aussi, la parabole du gérant habile, la parabole du pauvre Lazare. Et ils ont bien compris que la seule chose qui compte, c'est d'augmenter en eux la foi. Donc ils sont non seulement dans cette dynamique de demander la foi, de faire grandir en eux la foi, mais aussi dans une dynamique qui est celle du dépouillement déjà. Ils ne demandent rien d'autre que ça. Pas d'assurance, pas de garantie, uniquement la foi. Et donc Jésus, à partir du verset 6, répond à cette demande des apôtres de faire grandir en eux la foi par l'image de la graine de moutarde et du déplacement de l'arbre qui pourrait aller s'enraciner dans la mer. Et donc ça, c'est dans la droite ligne de ce qu'il a déjà accompli devant les yeux des disciples. À quel moment? Eh bien, lorsqu'il a fait des guérisons miraculeuses, parce que les guérisons miraculeuses, elles ont été faites en raison de la foi des personnes. Vous vous rappelez, on avait vu à chaque fois, c'est ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc on avait montré comment est-ce que ta foi t'a sauvé, va en paix, passait de la foi à l'espérance et de l'espérance à la charité. Mais à chaque fois, il était question de cette foi. Donc c'est la foi qui permet que ce qui est probablement impossible, en tout cas à l'esprit humain, devienne en fait possible. Et donc cette foi qui rend possible l'impossible, eh bien c'est cette foi qui manifeste les signes de la présence du royaume de Dieu au cœur du monde. Parce qu'il n'y a que Dieu. C'est ce qu'on a entendu au moment de l'Annonciation. Rien n'est impossible à Dieu. Donc c'est à Dieu que rien n'est impossible. Et c'est par Dieu que la graine de, enfin que, pas la graine de moutarde, pardon, que l'arbre peut prendre racine dans la mer. Et donc pour ça nécessite notre foi à nous. Donc on voit le lien entre la foi et la puissance de Dieu. Et pour que la foi demeure, pour que la foi ne devienne pas un simple instrument de puissance, on voit bien que là où il n'y a pas la foi, Jésus ne fait pas de miracle, parce qu'il ne veut pas apparaître comme un simple thaumaturge. Il n'est pas un thaumaturge. Et donc à partir de ce moment-là, pour que la foi ne devienne pas cet instrument de puissance, eh bien, elle doit aller de pair, la foi, avec l'humilité. Jésus dit, de même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. C'est la finale du passage qu'on a lu, verset 10. Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Donc le disciple, c'est un serviteur de Dieu. Et Dieu, c'est le maître du récit qui est présenté. C'est donc Dieu qui va donner à chacun la mission qui lui échoit et qui va lui donner les outils nécessaires pour la mission. C'est pour ça que Jésus envoie les 12 puis les 72 sans rien. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui pourvoit. Et lorsque la mission est accomplie, eh bien, il ne faut pas exiger un dû au Seigneur. C'est pas comme si ce qui avait été fait méritait un salaire. C'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que c'est nous qui devons accomplir la mission. C'est nous qui avons un dû à l'égard de Dieu et non Dieu qui a un dû à notre égard. Donc, quoi qu'il arrive, le disciple reste le débiteur de Dieu. Et il n'y a que l'humilité qui permet de conserver la disposition intérieure au service. De ne pas s'entrer dans une forme de révolte. On avait eu le passage, j'ai oublié le chapitre, il ne me revient pas en tête, mais avec la question de la maison qui est confiée à un gérant, et puis bienheureux le gérant qui est au service quand le maître rentre de voyage, mais par contre malheureux celui qui est en train de taper sur les autres, quoi. Donc là, c'est la même idée. C'est l'humilité qui permet de rester toujours dans la mission, sans prendre le pouvoir, sans réclamer un dû. Et en même temps, c'est la foi qui va aussi permettre de croire aux largesses de Dieu. Parce que Jésus, au chapitre 12, verset 37, dit « Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée... » Ah ben justement, je ne savais plus le chapitre, c'était celui-là, le 12. « Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. » Donc l'humilité permet de rester à sa place et de ne rien demander. La foi permet de savoir que Dieu va en fait récompenser. Non pas parce qu'on lui demande, mais parce que c'est son élan d'amour à notre égard.